Merci au groupe musical pour ces chants qui nous ont entraînés à la suite de Christ, qui nous ont invités à contempler l'œuvre de Christ aussi pour nous. Aujourd'hui, nous voulons poursuivre la méditation dans la première lettre de Pierre, 1 Pierre chapitre 2, et j'aimerais lire avec vous les versets 18 à 25. 1 Pierre chapitre 2, versets 18 à 25. Domestiques, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non pas seulement à ceux qui sont bons et conciliants, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car c'est une grâce que de supporter des peines par conscience de Dieu quand on souffre injustement. Quelle gloire y a-t-il en effet à endurer de mauvais traitements lorsqu'on a péché? En revanche, si vous endurez la souffrance tout en faisant le bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que le Christ lui-même a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il n'a pas commis de péché. Et on n'a pas trouvé de ruse dans sa bouche. Quand il était insulté, il ne rendait pas l'insulte. Quand il souffrait, il ne proférait pas de menaces. Mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Il a lui-même porté nos péchés, en son corps, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Et c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des moutons qui s'égaraient. Mais maintenant, vous êtes retournés vers celui qui est votre berger et votre gardien. Jusque-là, la lecture. Si vous avez été attentif à ce que nous venons de lire, vous vous rendez compte que ce texte nous place au cœur de l'Évangile. Mais en même temps, il nous remue, il nous secoue. Il ne nous laisse certainement pas indifférents. Parce que l'apôtre Pierre, ici, demande quelque chose d'inouï. Il nous demande non seulement d'accepter de souffrir, mais de souffrir injustement. Il nous demande de changer notre regard et de voir la souffrance, non pas comme quelque chose de terrible, mais comme une grâce. Et il va jusqu'à dire que l'injustice dont nous serions victimes est une grâce. Alors je ne sais pas qui d'entre vous a déjà pu imaginer que de souffrir injustement était un privilège, que ce soit dans sa famille, sur son lieu de travail. Je ne sais pas comment vous réagissez quand vous êtes amené à souffrir injustement. Mais j'imagine que, comme moi, nous sommes tous spontanément amené à vouloir réagir, à vouloir nous défendre, à vouloir faire valoir nos droits. Ça semble normal, n'est-ce pas? Toute la société, d'ailleurs, autour de nous répète constamment « Imposez-vous, ne vous laissez pas faire, sachez vous défendre. » Et spécialement sur le lieu de travail ou en famille. Comment sommes-nous invités à entendre cette parole ce matin? Comment la recevoir? Je lisais récemment un livre poignant qui m'a été offert par l'un d'entre vous, un livre qui rapporte le récit authentique d'un musulman irakien, Mohamed, qui a souffert d'une façon totalement injuste et atroce de la part de sa famille. Il a rencontré le Christ, il a dû payer un très lourd tribut pour vivre sa foi. Mohamed est issu d'une famille chiite en Irak, une des grandes familles irakiennes de la noblesse. Il avait été choisi par son père pour reprendre le domaine familial, les affaires, une sorte de grand tapis rouge qui se déroulait devant lui. La vie lui était facile, tout lui était dû. Il avait des maisons, des domestiques, tout le monde l'estimait. Et lorsqu'il est allé faire son service militaire, alors que c'était la guerre entre l'Irak et l'Iran,
Il a dû partager sa chambre avec un agriculteur qui s'est avéré être chrétien. Quand il apprend que son collègue de chambre est un chrétien, c'est la panique chez lui. Parce que les chrétiens, il en avait déjà entendu parler, mais il n'en avait jamais côtoyé. Comment était-il possible pour lui, un musulman d'une grande famille de noblesse, de dormir dans la même chambre qu'un paria, qu'un moins que rien, que quelqu'un avec qui il ne devait surtout pas se mélanger? Mohamed a peur de devoir parler à cet agriculteur. Et pourtant, à la longue, il se rend compte que c'est un homme charmant. Un homme qui est sympathique, il se laisse gagner par cette sympathie. Et un jour, il découvre caché dans la chambre un livre un peu mystérieux qui s'appelle « Les miracles de Jésus ». Il commence à le lire en cachette. Il va finir par vouloir entrer dans les pas de ce Jésus dont il fait la connaissance. Et il va se mettre à le suivre. Et quand l'agriculteur l'apprend, il l'intime fermement de ne surtout rien dire à sa famille parce qu'il sait la sentence qu'il pourrait y avoir, sentence de mort, inévitablement. En terre d'islam, là, dans cette région, changer de religion, c'était un crime. Et quand Mohamed retourne chez lui, il commence très prudemment à chercher une église en cachette, et chaque fois qu'il arrive dans une église, on lui ferme la porte. On lui explique que non, on ne le veut pas dans l'église. Il se voit refoulé, brutalement parfois, parce que les églises sont réservées aux chrétiens. Et un musulman converti pourrait être peut-être un espion, ou en tout cas, même s'il ne l'était pas, il pourrait attirer l'attention de tous les voisins et ça pourrait causer de gros problèmes pour les églises. Un jour, on force Mohamed à se marier avec une femme musulmane qu'il n'a pas choisie. Alors il doit vivre sa foi en cachette même devant son épouse. Et quand son épouse finit par découvrir la vérité, c'est d'abord un choc. Mon mari est chrétien, c'est pas possible. Mais finalement, elle se laissera convaincre et elle adoptera la foi de son mari. Ils sont maintenant tous les deux à devoir vivre leur foi en cachette. Et un jour, cependant, la famille de Mohamed, parce qu'il habite sur le domaine familial, sa famille découvre qu'il y a une Bible cachée dans la chambre à coucher, parce que malheureusement, le fils a trop parlé. Le lendemain, le père de Mohamed fait traîner son fils dans sa salle d'audience. Les frères et les cousins le mettent à terre, ils pointent des armes contre lui. Et finalement, au lieu de tirer, ils l'emmènent chez le plus grand imam en Irak pour chercher à le convaincre de revenir à la foi musulmane. Et comme ça n'aboutit pas, Mohamed va être jeté dans une prison de haute sécurité. Il va croupir dans un cachot avec quantité d'autres prisonniers. Ils n'ont pas de place même pour se coucher. Ils sont entassés dans ce cachot pendant 14 mois. Il va connaître des intimidations. Il va connaître la torture à répétition. Tout est fait pour qu'il abandonne sa foi. Le jour où enfin il peut ressortir de prison, il a perdu la moitié de son poids. De retour chez lui, il aperçoit que désormais il y a deux personnes de sa famille qui sont venues habiter dans la maison de son épouse pour la surveiller. Ce n'est pas tenable. Sur le long terme, ils ne pourront pas continuer de vivre en chrétien caché alors qu'il y a deux personnes dans la même maison. Le couple n'a pas d'autre moyen que de chercher à fuir, à quitter la famille. Mais le père, prudent, a confisqué tous les papiers pendant le temps de détention. Et le couple, malgré tout, va parvenir à franchir miraculeusement la frontière pour arriver jusqu'en Jordanie. Là, ils ont tout perdu. Lui, qui était d'une famille de noblesse, devient un réfugié. Entre-temps, il a pris un nouveau nom, il s'appelle Joseph. S'il était resté en Irak, il aurait pu mener une vie de pacha, une très belle vie. Il aurait simplement dû qu'il renie sa foi, mais il a refusé. Et un jour, alors qu'il se croit en sécurité en Jordanie, ses frères, malgré tout, parviennent à le retrouver dans la rue. Ils sont en voiture, ils l'emmènent de force dans la voiture. Ils l'entraînent dans un lieu un peu désert. Ils commencent à parlementer avec lui pour lui faire changer d'avis, mais lui essaye de les convaincre de l'évangile, sans succès. Eux crispent, se fâchent de plus en plus. En colère, l'un d'eux sort une arme et lui tire dessus. La balle, par miracle, passe à côté. Joseph s'enfuit. Mais dans sa fuite, une autre balle le touche à la jambe. Il tombe, il perd connaissance. Et là, miracle de Dieu, il s'en sort. À d'autres reprises encore, il va vivre des interventions miraculeuses de Dieu, pour lui, pour sa famille. Et cet homme aujourd'hui vit en France, depuis 20 ans. Il a une vie qui n'est pas facile. Il a tout perdu pour gagner le Christ. Sa famille, ses amis, son travail, son argent, sa considération sociale, sa sécurité. Tous ses proches l'ont renié. Ils ont voulu l'exterminer, le tuer, alors qu'il n'avait fait strictement aucun mal. Son père, qui pourtant avait une grande affection pour lui, a commandé qu'on vienne le chercher en Jordanie pour le tuer. Comment accepter cette souffrance injuste ? Et pourtant, notre texte nous dit que la souffrance injuste pour suivre le Christ est une grâce. La grâce ici, c'est la grâce d'avoir découvert Jésus. C'est la grâce de suivre Jésus dans ses traces, jusqu'à la croix. Pierre écrit au verset 20, « Si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. » Il y a une gloire à souffrir pour le Christ et à souffrir comme le Christ. Mais ce n'est pas un chemin facile. Cet homme, vous pouvez l'imaginer, a été blessé. Blessé par l'attitude de son père, par l'attitude de ses frères, de ses cousins. Il était profondément meurtri par le rejet dont il a été victime. Et pourtant, pour rien au monde, il ne serait revenu à des croyances auxquelles il ne pouvait plus adhérer. Pour rien au monde, il ne serait revenu à ce qu'il estime être une hypocrisie, ce souci de respectabilité qu'il percevait chez les siens, cet honneur familial qu'il fallait défendre coûte que coûte, par orgueil, par arrogance, jusqu'à ce qu'on en vienne à vouloir le supprimer parce qu'il était la honte de la famille à cause de sa foi en Christ. Ce qui m'a touché, c'est qu'honnête, à la fin de son récit, de son livre, il confesse qu'il lui reste un pas à accomplir. Pardonner à sa famille pour la prison, pour la torture, pour les privations. Mais il dit ceci, c'est le Christ, et je le cite, c'est le Christ qui m'a aidé à traverser ces difficultés. Pas un jour, son amour pour moi ne s'est démenti. C'est lui qui m'a donné le courage et la patience d'avancer toujours, sans désespérer. Au travers des persécutions qui m'ont assailli, je suis même fier d'avoir pu témoigner de ma foi chrétienne. Pourquoi est-ce que je prends du temps ce matin pour vous raconter cette histoire? Parce que la situation des chrétiens à qui Pierre écrit ressemble beaucoup à la situation de l'homme dont je viens de faire le récit, cet homme qui a souffert injustement. Et pour que l'on comprenne mieux et que l'on puisse entrer dans notre texte, j'aimerais donner quelques éléments de contexte. Quand Pierre écrit à ces chrétiens d'Asie mineure au 1er siècle, ceux-ci sont minoritaires dans la société. Ils ont une religion qui est différente, une religion qui peut faire peur. Que veulent ces chrétiens? Pourquoi n'adorent-ils pas les idoles comme nous? Est-ce que leurs pratiques, est-ce que leurs croyances ne vont pas déstabiliser la société? Et la société à cette époque repose sur le concept de la famille élargie. La famille qu'on pourra appeler la maisonnée, en fait, avec la famille au sens large, ainsi que les domestiques, ainsi que les employés de maison. Et cela pouvait faire beaucoup, beaucoup de monde. Il existait une hiérarchie, un ordre qui était bien établi dans ces maisonnées. Et c'est cela qui donnait la cohésion à la société. Or, si une nouvelle religion venait perturber cet ordre, elle constituait une menace pour la société. Le père de famille, c'était le chef incontesté. Il avait quasiment tous les pouvoirs. Sa femme lui était soumise. Elle était d'un rang inférieur. Les enfants avaient leur place bien à eux. Et le chef de famille avait quasiment tous les droits sur les domestiques. Surtout quand il s'agissait d'esclaves, ce qui était le cas la plupart du temps. Les philosophes, à cette époque, pensaient que cet ordre au sein de la maisonnée, c'était un ordre de droit divin, qu'il ne fallait surtout pas y toucher. Donc, c'est forcément un sujet sensible. Les chrétiens pouvaient faire peur par leur religion nouvelle, une religion qui vient de l'étranger, de Jérusalem. Donc, il fallait qu'ils rassurent. Et l'apôtre Pierre veut aider les chrétiens à vivre leur identité en Christ au sein de cette société. Beaucoup de ces chrétiens étaient de conditions modestes. Sans doute beaucoup étaient au service d'un maître en tant qu'esclave. Et Pierre leur dit au verset 13, « Soumettez-vous à toute créature humaine. » Autrement dit, acceptez l'ordre social dans lequel vous êtes. Cherchez à vivre à l'intérieur de celui-ci en tant que disciple de Jésus-Christ. J'ai commenté la dernière fois ce passage en expliquant que les chrétiens doivent être soumis aux autorités, notamment pour faire taire ceux qui pensent que la foi chrétienne serait dangereuse pour la société. Dans le texte d'aujourd'hui, l'apôtre Pierre a cette même préoccupation. Il veut que les chrétiens se fassent accepter. Et donc, il les invite à se soumettre aux structures domestiques. L'esclave doit se soumettre à son maître et lui obéir. Et la femme, on le verra la prochaine fois, doit se soumettre à son mari. Cela pourrait nous scandaliser aujourd'hui avec 20 siècles de distance. Comment est-il possible que cet apôtre, qui n'est pas n'importe lequel, l'apôtre sur qui Jésus a promis de bâtir son Église, comment est-il possible qu'il puisse accepter un système qui est oppressif et profondément injuste ? Et même si l'esclavage était jugé tout à fait acceptable et normal dans la société, et même si la population d'esclaves était sans doute bien plus importante que le nombre de personnes qui étaient libres, que les hommes libres, pourquoi Pierre tolère-t-il que des hommes et des femmes soient ramenés au rang d'une chose, d'un objet, en étant complètement à la merci de leur maître ? Pourquoi n'appelle-t-il pas à la révolte au nom des droits de l'homme, au nom de l'égalité pour tous ? Je dirais qu'il y a une première réponse qui est simple. C'est que l'Église n'avait tout simplement pas les moyens d'une révolte. Les esclaves qui se révoltaient pouvaient être torturés. Ils pouvaient même être mis à mort par crucifixion. Les propriétaires, à cette époque, parce que les révoltes augmentaient, étaient de plus en plus craintifs, de plus en plus soupçonneux face au risque de soulèvement. Il n'était tout simplement pas envisageable pour l'Église, dans cette situation minoritaire, de contester l'ordre social frontalement. Mais n'allez pas croire que Pierre appelle les esclaves chrétiens ou les domestiques simplement à se résigner, à accepter leur situation par dépit. Tout en invitant à la soumission, Pierre invite aussi à une forme de subversion. Parce que tout en étant invité à se soumettre, le chrétien est appelé à agir différemment des gens de la société. Il est appelé à être différent. La société ne va pas changer parce que l'on renverse les structures établies par la révolution. Elle va changer parce que le royaume de Dieu va grandir et que le royaume de Dieu amène avec lui des valeurs nouvelles et qu'il entraîne avec lui non pas une révolution des structures, mais une révolution des cœurs et des mentalités. Et on trouve ces semences de subversion dans différents textes du Nouveau Testament. L'histoire, par exemple, de l'esclave Onésime qui s'enfuit de chez son maître Philémon est tout à fait révélatrice de ces nouvelles valeurs que les apôtres proclament au sein de la communauté nouvelle de Jésus-Christ. L'apôtre Paul encourage le maître chrétien à ne pas agir comme il le ferait normalement et comme tous les maîtres le faisaient à cette époque. Philémon aurait très bien pu mettre son esclave qui s'était enfui à mort. Et c'est comme ça que ça se faisait souvent. Mais Onésime, l'esclave qui s'est enfui, est devenu un frère. Il y a une relation différente au sein du royaume de Dieu. Et voici donc la recommandation de Paul à ce maître Philémon. Il lui écrit en disant « Qui sait ? Peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave. » Et écoutez bien ce qu'il dit, « Bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. Il l'est tellement pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, en tant qu'homme et en tant que frère dans le Seigneur ?» Voyez comment l'Évangile instaure une dignité nouvelle pour chaque personne. En fait, les apôtres, dans plusieurs textes du Nouveau Testament, posent les bases de l'abolition de l'esclavage. L'empereur romain Justinien, au VIe siècle, va chercher à éradiquer l'esclavage, mais malheureusement, il va reprendre après lui. Des groupes évangéliques ont lutté pour l'abolition de l'esclavage à partir du XVIIe siècle, au XVIIIe, au XIXe. On peut regarder avec reconnaissance l'engagement déterminant de groupes comme les Quakers, les méthodistes, et puis ceux de leaders évangéliques comme William Wilberforce, des gens qui vont réussir à faire abolir l'esclavage dans tout l'Empire britannique. Officiellement, l'esclavage n'existe plus aujourd'hui. Et pourtant, si on y regarde de plus près, on retrouve des formes contemporaines qui ressemblent étrangement à celles du premier siècle. Je pense par exemple aux personnes aujourd'hui qui n'ont pas de papier, qui sont sur territoire français, qui travaillent au noir pour l'économie française, dans le domaine de l'hôtellerie, de la construction, de l'agriculture. Ce sont des gens qui souvent se retrouvent dans des situations d'extrême précarité. Parfois, ils sont à la merci de patrons peu scrupuleux, voire franchement malveillants. Or, la société admet ce fait, et les gouvernements successifs ferment plus ou moins les yeux sur cette réalité. Oui, aujourd'hui, il y a des domestiques en France qui sont réduits à une situation qui ressemble beaucoup à celle du premier siècle. Quel est le message de l'Évangile pour eux ? Quel est le message de l'Évangile pour nous tous ? En fait, l'apôtre Pierre nous invite dans ce texte à voir que les plus petits de nos frères sont des modèles, en fait, pour notre foi. Parce que nous sommes tous invités à devenir des serviteurs, des esclaves de Jésus-Christ. Quel que soit le rang qu'on occupe dans la société, quel que soit notre statut social, notre histoire familiale, nous sommes en quelque sorte tous des sans-papiers, des voyageurs sur cette terre. Nous ne sommes pas des citoyens de ce monde, nous sommes des citoyens des cieux. Et notre véritable patrie, celle qui fait vibrer notre cœur, c'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Au verset 18, Pierre écrit « serviteur » ou « domestique ». Soumettez-vous à votre maître par respect pour Dieu, non seulement s'il est bon et conciliant, mais aussi s'il est difficile, s'il est tyrannique, s'il est injuste à votre égard. Les domestiques à qui Pierre s'adresse pouvaient effectivement être traités injustement. Parfois simplement, du fait d'occuper un rang social inférieur, souvent parce qu'ils étaient esclaves. Leur foi pouvait amener aussi une forme de ségrégation. On pouvait leur faire subir des brimades, leur refuser peut-être l'accès à des meilleurs postes. Et cette situation peut se retrouver pour nous, pour vous aujourd'hui. Vous pouvez peut-être être dans une situation professionnelle ou personnelle, familiale, où vous êtes en difficulté. Vous pouvez peut-être avoir vous aussi un employeur qui vous demande, par exemple, de mentir à un client ou d'installer des logiciels piratés. Parfois, aujourd'hui, nous devons refuser des choses parce que nous ne pouvons pas les accomplir tout en étant loyal à notre maître dans les cieux. Peut-être faudra-t-il un jour refuser une fête d'entreprise parce que, tout simplement, cette fête va se vivre dans une morale plus que douteuse. Pierre dit « soumettez-vous ». Donc il demande un geste de soumission, mais pas à n'importe quel prix, pas une soumission illimitée. C'est une soumission qui est conditionnée au respect que nous avons pour Dieu. Dieu vient en premier. Et ainsi, si mon employeur me demande de mentir à un client, le respect que j'ai pour Dieu va m'interdire de me soumettre à cet ordre. Alors je pourrais peut-être essayer d'expliquer à mon employeur que j'ai un autre maître, bien plus haut placé, dans les cieux, qui m'interdit toute pratique mensongère. Je pourrais peut-être même essayer d'infléchir la position de mon patron et de le faire réfléchir en disant que si je mens à un client, qu'est-ce qui lui permettra de savoir que je ne lui mens pas aussi ? Mais s'il n'entend pas mes arguments, et s'il se venge ensuite, s'il me maltraite, ben j'aurai à subir cette souffrance tout en continuant à faire ce qui est juste, juste aux yeux de Dieu. À l'époque, le domestique ou l'esclave n'avait quasiment aucune possibilité de quitter son emploi, sa place. Il ne pouvait pas trouver un autre travail si ça se passait mal. Aujourd'hui, notre contexte est différent. Ça ne sert à rien de rester sous l'oppression d'un chef tyrannique si nous avons la possibilité de changer de place de travail. Nous ne devons pas chercher à souffrir pour le plaisir de souffrir. Ce n'est pas cela qui nous est demandé ici. Mais changer de place de travail n'est pas toujours possible. Changer de maître n'est pas toujours possible. Parfois, il n'y a pas d'autre choix que de continuer là où nous sommes, dans notre famille ou dans notre environnement professionnel. Comment alors réagir aux brimades, aux injustices, quand on nous manque de respect, alors qu'on n'a rien fait, qu'on n'a commis aucune faute? La juste attitude, ce n'est pas de nous défendre, mais c'est de continuer à bien agir, à travailler du mieux que nous le pouvons. La juste attitude, c'est de manifester un comportement chrétien dans ces moments-là, même dans les situations d'injustice. Pierre dit au verset 19, « C'est un privilège. C'est une grâce que de supporter des souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu. » Il rajoute au verset 20, « Si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là une grâce devant Dieu. » La réponse de Pierre peut nous choquer. Comment peut-il dire que la souffrance injuste est une grâce? Comment peut-il dire que Dieu nous demande de voir ces souffrances imméritées comme un privilège, une chance, une opportunité? Comment comprendre? En fait, traverser les souffrances en chrétien, c'est montrer Jésus aux autres. C'est jouer le rôle de miroir qui reflète la bonne nouvelle de Jésus. Accepter une souffrance qui n'est pas méritée, c'est un geste gracieux, un geste plein de grâce et de beauté. C'est un geste qui renvoie à la grâce de Dieu. Parce que c'est lui qui permet cette acceptation. Vous savez, il n'y a aucun mérite personnel à endurer des souffrances injustes. Il ne s'agit pas de serrer les dents, de faire des efforts surhumains, de montrer qu'on est fort face à la souffrance, de montrer ainsi qu'on peut se faire accepter par Dieu. Ce n'est pas du tout cela le message qui nous est proposé ici. Vivre la souffrance n'est pas une performance. C'est simplement le chemin du Christ. C'est la réponse à notre vocation chrétienne. Et c'est pour cela que Pierre parle d'un appel. L'appel qui pèse sur notre vie, c'est de suivre le Christ jusque sur le chemin de la croix. Être chrétien, c'est faire le bien malgré l'injustice et tout en continuant de subir l'injustice. Ça a été le chemin de Jésus. C'est aussi notre chemin. Jésus est notre modèle. Et c'est quoi un modèle ? Le modèle, c'est ce qui donne forme à un objet qu'on cherche à reproduire. Eh bien, Christ nous modèle et il est notre modèle. La vocation que nous avons en tant que chrétiens, frères et sœurs, c'est de glorifier Dieu dans notre vie. Et même, et surtout, à travers les souffrances injustes. Si nous formons un peuple pour Dieu, c'est parce que Dieu veut que son peuple le glorifie par sa bonne conduite, et qu'ainsi des non-croyants puissent reconnaître Dieu au travers de notre comportement. Nous venons de célébrer Vendredi Saint et Pâques. Nous avons rappelé les souffrances de Jésus. Quand Jésus était emmené à la croix, il a accepté de subir l'injustice, pour toutes les injustices que nous subissons. Il a accepté les crachats, les moqueries, les railleries, les coups, les clous. Il a été le serviteur souffrant qui nous est dépeint par le prophète Ésaïe. Christ a souffert pour nous, pour que nous vivions comme lui. Christ a souffert pour nous, pour que nous vivions comme lui. Mais avant qu'il soit un exemple à suivre, il faut comprendre que la souffrance de Jésus a provoqué un bouleversement dans nos vies. Elle a changé notre statut, notre vocation devant lui. La souffrance de Jésus nous a fait basculer dans un autre camp, dans le camp de Jésus. Et maintenant, parce que nous sommes dans le camp de Jésus, Dieu aimerait nous modeler à sa ressemblance pour qu'on ait la même conception, la même stratégie que lui, la même motivation, la même mission. Nous sommes appelés à suivre les traces de Jésus, à être ses imitateurs. Nous lisons au verset 21, « Jésus n'a pas commis de péché. » Eh bien, nous aussi, nous sommes invités à ne pas commettre le péché, à ne pas nous laisser prendre par l'injustice et à commettre le péché en réaction à l'injustice que nous subissons. Au verset 22, il est dit à propos de Jésus, « On n'a pas trouvé de mensonge ou de ruse dans sa bouche. » Eh bien, nous aussi, nous avons à être irréprochables, à préserver notre langue des paroles qui seraient fausses. Au verset 23, il est dit que Jésus, insulté, ne rendait pas l'insulte. Nous aussi, parfois, nous devons apprendre à nous taire, comme Jésus, au lieu de devenir agressif ou d'injurier. On aurait tellement vite envie de réagir au quart de tour, de dire que cette fois, l'autre a bouché le bouchon trop loin, a poussé le bouchon trop loin, ce n'est plus possible. Mais ne pas riposter, tout comme Jésus n'a pas riposté, envoie un signal très fort à l'agresseur, le signal de l'œuvre de Dieu en nous. Au verset 23 toujours, il est dit, « Il remettait sa cause entre les mains du juste juge. » Jésus avait cette foi qu'un jour justice serait faite, que la justice serait rendue par son Père. Et quand vous lisez les psaumes, nous offrent un chemin par lequel on peut crier notre souffrance à Dieu, on peut lui dire notre incompréhension. Mais au lieu de faire justice nous-mêmes, les psaumes nous invitent à laisser Dieu agir. Dieu va faire justice bien mieux que nous ne le ferions. Est-ce que c'est un chemin facile qui nous est proposé ce matin ? Certainement pas. Certainement que nous ne sommes pas toujours à la hauteur. Certainement qu'en regardant les fois où nous avons été victimes d'injustice, alors que nous n'avions rien fait et que nous observons notre réaction, nous voyons que nous avons été entraînés dans le péché en retour. Est-ce facile ? Certainement pas. Mais je crois que nous sommes là pour montrer la vie de Christ en nous. Nous sommes là pour que les autres puissent voir à quoi ressemble la vie d'un chrétien. Notre appel, c'est d'attirer le regard des autres sur Jésus, pour que Jésus soit glorifié. Ma réaction, c'est de ne pas rendre les coups pour les coups, mais de continuer d'aimer, d'agir bien, de faire du mieux que je peux. Vous voyez, le regard qui est proposé ici sur la réaction face à l'injustice implique vraiment un changement radical. Ce n'est pas possible par nos seules forces. Ce n'est possible que parce que Jésus est mort pour nous, qu'il a porté nos péchés, que nous avons été guéris par ses meurtrissures et que maintenant nous pouvons le suivre parce qu'il est notre modèle et que c'est lui qui va nous garder. Il est notre gardien, dit le texte. Il va savoir nous garder dans le bon chemin. Faisons confiance à Dieu et demandons-lui la grâce de pouvoir agir comme il nous le demande. Amen. Je vous invite encore à la prière. Seigneur, nous sommes ici confrontés à nous-mêmes. Nous sommes ce matin invités à voir au plus profond de nous-mêmes le sens de l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Seigneur Jésus, tu as fait tout le nécessaire pour que nos fautes soient prises sur toi, que tu payes pour cela, que tu nous fasses changer de camp et que tu nous entraînes à ta suite. Seigneur, nous te disons ce matin que nous avons besoin de toi, que nous n'allons pas y arriver tout seuls, mais aide-nous, Seigneur, à considérer que même les souffrances injustes que nous avons à subir en voulant te suivre sont des motifs de grâce, de reconnaissance. Merci, Seigneur, parce que tu nous invites à te ressembler et que tu vas nous en donner la possibilité. Merci parce que tu nous invites à nous exposer, mais que tu vas nous protéger, être notre gardien. Tu es notre berger, notre fidèle et divin berger. Garde-nous en toi, Seigneur. Amen.